Chapitre 9. Le vice monétaire. La situation se résume à cette chose inconcevable. Tout l'argent qui est en circulation n'y est venu que par la banque. Même l'argent de métal ou de papier ne vient en circulation que s'il est libéré par la banque. Or, la banque ne met l'argent en circulation qu'en le prêtant et en le grevant d'un intérêt. Ce qui veut dire que tout l'argent en circulation est venu de la banque et doit retourner à la banque quelques jours, mais y retourner grossi d'un intérêt. La banque reste propriétaire de l'argent. Nous n'en sommes que les locataires. S'il y en a qui gardent l'argent plus longtemps ou même toujours, d'autres sont nécessairement incapables de remplir leur engagement de remboursement. Multiplicité des banqueroutes de particuliers et de compagnies. Hypothèque sur hypothèque et croissance continuelle des dettes publiques sont le fruit naturel d'un tel système. L'intérêt sur l'argent à sa naissance est à la fois illégitime et absurde, antisocial et anti-arithmétique. Le vice monétaire est donc un vice technique autant qu'un vice social. À mesure que le pays se développe, en production comme en population, il faut plus d'argent. Or, on ne peut avoir d'argent nouveau qu'en s'endettant d'une dette collectivement impayable. Il reste donc le choix entre arrêter le développement ou s'endetter, entre chômer ou contracter des emprunts impayables. C'est entre ces deux choses-là qu'on se débat justement dans tous les pays. Aristote, et après lui saint Thomas d'Aquin, écrivent que l'argent ne fait pas de petits. Or, le banquier ne met l'argent au monde qu'à condition qu'il fasse des petits. Comme ni le gouvernement ni les particuliers ne font d'argent, personne ne fait les petits réclamés par le banquier. Même légalisé, ce mode d'émission reste vicieux et insultant. Déchéance et abjection. Cette manière de faire l'argent du pays, en endettant gouvernement et particuliers, établit une véritable dictature sur les gouvernements comme sur les particuliers. Le gouvernement souverain est devenu un signataire de dettes envers un petit groupe de profiteurs. Le ministre, qui représente 30 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, signe des dettes impayables. Le banquier, qui représente quelques actionnaires assoiffés de profit, manufacture l'argent du pays. C'est un aspect frappant de la déchéance du pouvoir dont parle le pape. Les gouvernements sont déchus de leurs nobles fonctions et sont devenus les valets des intérêts privés. Le gouvernement, au lieu de piloter le Canada, s'est transformé en percepteur d'impôts. Et l'item le plus gros de l'emploi des impôts est justement l'intérêt sur la dette publique. Aussi, l'administration consiste-t-elle surtout à taxer les citoyens, et la législation a placé partout des restrictions à la liberté. On a des lois pour protéger les remboursements aux faiseurs d'argent. On n'en a pas pour empêcher un être humain de mourir de misère. Quant aux individus, l'argent rare développe chez eux la mentalité de loup. En face de l'abondance, c'est à qui obtiendra le signe trop rare qui donne droit à l'abondance. D'où concurrence, effrénée, lutte pour le fromage politique, dénonciation, dictature patronale, chicane domestique, etc. Un petit nombre mange les autres. Le grand nombre gémit, plusieurs dans une abjection déshonorante. Des malades restent sans soins, des enfants reçoivent une nourriture inférieure ou insuffisante, des talents ne peuvent se développer. Des jeunes gens ne peuvent se déplacer ni fonder un foyer. Les cultivateurs perdent leurs fermes. Des industriels font banqueroute. Des familles vivotent péniblement. Le tout sans autre justification que le manque d'argent. La plume du banquier impose au public des privations, au gouvernement, la servitude.